Radio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez bien sûr les programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires. Il est 8h. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue aux informations. Voici les titres. Crainte d'une reprise du front social. Plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la sécurité et l'administration, menacent d'entreprendre des actions sociales dès cette semaine. Au même moment, le M5-RFP annonce aussi une semaine d'activité intense. Deux morts dont un combattant du groupe d'autodéfense Gandakui, enregistré hier dimanche à Gao suite à une tension sociale. Les autorités locales déplorent l'incident et appellent au calme. Quatre personnes mortes et des disparus sur le bilan du chavirement d'une pinasse entre Mopti et Niafinke. La cause du drame reste inconnue, mais certains rescapés avancent l'hypothèse d'une surcharge. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la technique. Le front social risque de connaître une ébullition dans les prochains jours au Mali. Les enseignants, les policiers, les administrateurs civils et les travailleurs des affaires étrangères prévoient des mouvements de grève dès cette semaine. Ils comptent tous engager des actions de grande envergure jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Les détails avec Maliki Diallo.
Dans une note circulaire, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 appellent à l'arrêt des cours, à la suspension des activités pédagogiques et à la fermeture des structures de l'éducation dès ce lundi 17 août. La Synergie reproche à des responsables du ministère de l'Éducation nationale de tripatouiller le procès verbal des négociations par rapport à l'application de l'article 39 après les instructions d'application du président de la République. En plus des enseignants, les policiers affiliés au syndicat autonome de la police prévoient également un arrêt de travail ce lundi pour dénoncer la suspension de leur secrétaire général par le nouveau ministre en charge de la sécurité intérieure pour faute grave. Le syndicat des administrateurs civils s'apprête également à déposer un préavis de grève le mardi prochain. Victime d'assassinats ciblés et d'enlèvements dans le nord et centre du pays, il demande à renforcer leur sécurité et le paiement de leurs indemnités. À partir du 31 août, le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères entend aussi partir en grève suite à un préavis déposé le 10 août dernier. En somme, le gouvernement fait désormais face à un autre front que celui du M5-RFP.
De son côté, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, annonce une semaine d'activité intense. Au programme, des mobilisations sont prévues à Bamako mardi et mercredi et à Kati jeudi prochain. Ces activités seront suivies d'un rassemblement patriotique vendredi, suivi d'un sitting jusqu'au dimanche 23 août, annoncent les responsables du mouvement. La semaine prochaine, une marche est aussi prévue le mardi 25 août par le M5-RFP avec un sitting à la place de l'indépendance jusqu'au lendemain. Rappelons que ces activités ont pour but de demander le départ du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Retrouvez toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321 ou rejoignez également Studio Tamani en commentant et partageant nos contenus sur Facebook et Twitter. Tension à Gao, ce dimanche 16 août, deux jeunes armés à moto ont tiré et tué un commandant de groupe d'autodéfense Gandakui. Suite à ce drame, les auteurs ont été poursuivis par une foule en colère et un d'entre eux a été lynché à mort. L'autre suspect a réussi à s'enfuir. Pour les autorités locales, ces incidents entravent la bonne marche de la cohésion sociale à Gao. Ainsi, le maire de la ville qui déplore les faits appelle au calme et à la retenue. Boubacar Daka Traoré est au micro de Ali Maïga, notre correspondant à Gao.
Nous sommes face à des problèmes de ce genre de braquage dans ces quelques mois dans la ville de Gao. C'est un banditisme résiduel qui est là et qui est en train de se gangréner. Nous ne pouvons dire qu'à la ville d'aller à la retenue. La violence amène la haine. Donc, qu'on ne se mette pas dans la tentation de la violence. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à dire à la population de Gao d'aller dans le bon sens de la cohésion sociale. Si toutefois nous sortons de cela, ce comme nous sortons de notre dignité. Gao a été toujours prêt à se mettre au-dessus de certaines situations. Mais je vois dans ces quelques jours, il y a des tensions. Tension, c'est vrai. Tout celui qui te sent lésé au fond de toi, ça te met hors de toi. Que les Arabes, les Tamachèques, qui n'ont qu'à aller dans ce sens.
8h passées de 5 minutes sur la radio Isabelle de Niafinke. Naufrage d'une pinasse entre Mopti et Niafinke le mercredi dernier. Selon des sources locales, le bilan est de 4 morts, plusieurs disparus et une importante quantité de marchandises estimée à des dizaines de millions. Les causes du drame restent encore à déterminer, mais la thèse d'une surcharge est préconisée par certains rescapés. Le ministère français des Affaires étrangères a classé désormais les villes de Kaï, Sikassos et Ségou en zone rouge. Autrement dit, il déconseille formellement à ses autorités, à ses ressortissants, de se rendre dans ces localités. Cette décision intervient juste une semaine après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 6 Français au Niger. C'est une mesure de précaution, estime Serge Daniel, spécialiste des questions sécuritaires. Pour lui, la France veut tirer les conséquences de cette attaque en appelant ses ressortissants à éviter les villes classées liste rouge. Il est joint par Ali Sissé.
C'est ce que j'appelle un principe de précaution. C'est après ce qui s'est passé au Niger, le gouvernement français a dû tirer les conséquences, les conclusions qu'il faut. D'abord, la France a dit nous allons renforcer le dispositif sécuritaire de nos compatriotes dans la région. Mais ensuite, ils prennent des décisions pour dire à leurs ressortissants de faire attention que telle zone est considérée comme liste rouge. La liste rouge au Mali est devenue plus étendue qu'avant.
Mais pourquoi Kaï ?
C'est très intéressant là. Ce que vous dites de Kaï, parce que Kaï, c'est à l'extrême ouest, mais vous savez que Kaï, il y a eu récemment des attaques qui ont été menées dans la région de Kaï, qui ont été attribuées à des groupes armés djihadistes. Donc probablement que c'est pour ça que Kaï fait partie pour la France de cette zone des hommes rouges. Disons que le tourisme était quasiment mort, si vous permettez l'expression.
Dans un rapport accablant non publié, les experts de l'ONU révèlent que des hauts responsables maliens seraient en connivence avec des réseaux de drogue dans le Sahara. Le document cite notamment les directeurs de la sécurité d'État Moussa Diawara et Keba Sangaré. Son apparition donne un coup dur au gouvernement malien, estiment certains analystes. Car pour Brima Elidiko, sociologue et enseignant-chercheur, dans le contexte actuel du pays, ce rapport certifie la mauvaise gouvernance dénoncée par le M5-RFP. Il est joint par Aïssata Diarra.
Nous sommes dans un contexte de crise politique au Mali. Ça cristallise les tensions, mais en même temps, quelque part, ça donne du crédit aux revendications du M5. Et pour les autorités maliennes, c'est un rapport qui arrive au pire moment. Mais en soi, il appartient simplement aux autorités d'en tirer des leçons et de faire en sorte que les personnes qui sont citées dans ce rapport puissent se justifier ou bien que l'État malien fasse un communiqué pour démentir cela. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communiqué de démenti, c'est comme si ce que disent les Nations Unies, c'est de la vérité. Donc, elles vont sanctionner. Le temps nous pourra nous le dire, parce que par le passé, il y avait un autre Malien qui avait été cité dans les trafics de cocaïne, mais qui n'a pas été sanctionné. Donc, est-ce que c'est aussi un peu du bluff de la part des Nations Unies en inférieur?
10 août, journée africaine de l'état civil. La célébration de cette journée intervient au Mali dans un contexte marqué par le parcours du combattant pour les demandeurs d'actes de naissance pour leur nouveau-né. Les usagers accusent les mairies, celles-ci réfutent. À la direction nationale de l'état civil, on explique que les mairies n'enlèvent pas régulièrement les lots qui leur sont réservés. Les explications avec Ali Sissi.
L'état civil fournit aux personnes des documents d'identité légaux, à leur statut juridique et contribue à la sauvegarde de leurs droits tout au long de leur vie. Pourtant, des difficultés entourent l'acquisition de ces documents, comme le témoigne Mafoune Traoulé, mère de famille, venue chercher l'acte de naissance de son enfant. 3 rendez-vous sans succès.
Je suis venue chercher l'acte de naissance de mon enfant. J'ai accouché à la maternité de Sogonico le 28 mai dernier. Ils m'ont dit de venir récupérer l'acte de naissance de mon enfant le 28 juin. Ça fait beaucoup de rendez-vous sans succès. J'ai laissé en instance mes affaires pour venir.
La pénurie des registres dans les centres d'état civil serait la cause de ces rendez-vous interminables. Ce qui n'est pas de l'avis du docteur Abdoulaye Al-Kadi, directeur national de l'état civil.
Ici, on a un magasin qui est rempli de registres. À ce jour, on donne les registres même sans frais parce que la loi dit de faire payer. On donne même les registres sur un bon. Il suffit qu'ils viennent juste pour enlever. C'est les mairies qui ne viennent pas.
L'officier d'état civil de la commune 6 police du district de Bamako qualifie d'infondés les propos du premier responsable de la direction nationale de l'état civil. Adama Doumbia, 4e adjoint au maire de la commune 6 du district de Bamako.
Je pense que les propos du directeur constituent une contre-vérité. Il y avait pénurie des registres à peu près plus de 3 ans. Et dire qu'on refuse d'aller enlever les registres, ce n'est pas fondé.
Rappelons qu'à ces jours, la stratégie nationale s'appuie une vision qui consiste à faire de l'état civil à l'horizon 2025 un instrument performant de l'individu. Cet instrument lui assure la reconnaissance et l'exercice de ses droits et devoirs civils.
Le blocage du trafic entre les quartiers Bankoné et Hippodrome est enfin fini. Ce pont avait été bloqué par des ordures qui seraient versées par des riverains victimes d'inondations après chaque pluie. Cette inaccessibilité, j'y arrive, a eu lieu courant la semaine dernière et a duré 7 jours. Reportage de Boubacar Labasconi.
Un soulagement pour les habitants aux alentours de ce pont situé entre Bankoné et Hippodrome. Cela après des jours de calvaire dus au non-curageur des caniveaux du quartier. Mais le problème n'est pas totalement résolu. Crème Boubacar Sakoni, menuisier installé au bord du dit pont.
Nous faisons nous-mêmes le curage des caniveaux. Et après, nous faisons appel à la mairie pour venir ramasser les déchets. Mais elle ne vient pas. C'est suite au blocage de la route par les habitants qu'on a reçu des aides pour pouvoir la libérer. Dieu merci, maintenant l'eau passe facilement. Mais jusqu'à présent, il y a des caniveaux qui ne sont pas bien curés. La base de la situation est due au pont.
Aussitôt alerté, la mairie de la commune a dépêché une équipe sur place pour dégager la voie aux eaux de pluie et libérer le passage aux usagers, affirme Baini Sangare, 3e maire à la mairie.
Ce sont les habitants eux-mêmes qui déversent leurs ordures sous le pont. La mairie s'est rendue sur le lieu pour faire le constat et envoyer ses partenaires pour faire le curage immédiatement. Ozone aussi est venu apporter son aide.
Selon les autorités municipales, ces inondations sont dues aux ordures déversées dans les collecteurs par les habitants. Ainsi, elle invite à arrêter cette pratique.
Covid-19, à la date de ce dimanche 16 août, sur 627 échantillons, les autorités sanitaires du Mali ont enregistré 26 nouveaux cas, un patient guéri et 0 décès, ce qui fait au total 2640 cas positifs, 1987 guéris et 125 décès. À présent, place à l'actu Covid du jour, une réalisation de Moumine Sendebo avec la voix de Khalifa Goïta.
Bienvenue dans Actu Covid d'aujourd'hui. Nous allons à la découverte du laboratoire de biologie moléculaire appliquée. C'est l'un des laboratoires du Centre universitaire de recherche clinique qui analyse les échantillons de nouveaux cas suspects du coronavirus. Situé au cœur de la faculté de médecine à Point G, effectue des tests à Covid-19. Comment s'effectuent ces tests à Covid-19? Quels sont ses moyens de travail? Quelle est la durée d'une analyse? Éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Malé Sissoko.
C'est au laboratoire P3 Mycobactériologie et des fièvres hémorragiques que les échantillons des cas suspects de Covid-19 sont réceptionnés. Un lieu confiné où l'accès est interdit aux personnes étrangères à cause de la dangerosité du virus. Derrière les vitres de ce laboratoire, un homme et une femme en combinaison intégrale travaillent sur les échantillons, étape indispensable avant de les décontaminer. Après cette étape, l'analyse des agents pathogènes s'ensuit au laboratoire de biologie moléculaire. Comme nous l'explique Dr Amadou Koné, responsable de l'unité de biologie moléculaire.
Le nouveau coronavirus est venu. Ça trouvait que le laboratoire était préparé. Les personnes étaient formées, on avait les machines, mais les outils qui nous permettent de diagnostiquer, on n'avait pas. Donc ça, c'est nos partenaires américains qui nous ont donné ça. Et rapidement, on a testé les premiers cas suspects, jusqu'à ce qu'on a découvert les premiers cas positifs coronavirus. Ça a été fait dans notre laboratoire.
Selon Dr Amadou Koné, ses équipes travaillent nuit et jour sur le traitement des échantillons des cas suspects et des malades de Covid-19.
Déjà, à notre niveau, on essaye, bien sûr, en plus de l'activité de diagnostic, parce que tous les cas suspects au Mali, c'est centralisé au niveau de l'INSP, donc on nous envoie des échantillons ici. Hier soir, on a reçu une centaine d'échantillons qu'on a testés.
Rappelons que 30% des tests ont été réalisés au laboratoire de biologie moléculaire, selon l'INRSP.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le commissariat à la sécurité alimentaire a offert le jeudi dernier plus de 100 000 tonnes de vivres aux populations vulnérables. L'objectif est de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations démunies. Écoutons maintenant la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Daouda Kassoum Menta, expert Covid-19 et spécialiste des maladies infectieuses.
Allô, docteur. Les localités qui n'ont pas encore enregistré des cas positifs de COVID-19 sont-elles immunisées contre la maladie?
Là aussi, il faut faire des prélèvements. C'est des sujets de recherche. Voir des localités qui n'ont pas été contaminées. Quel a été le facteur protecteur? Est-ce qu'ils ont fait la maladie de façon asymptomatique? Ils ont développé des anticorps? Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il faut aller aujourd'hui pour une meilleure compréhension de la maladie.
C'est tout pour ActuCovid d'aujourd'hui. À demain. Pour vous protéger de la maladie, n'oubliez pas de laver régulièrement vos mains et portez vos masques.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue.
Studio Tamani.